Un journaliste d'expérience qui fait avancer la réflexion. Philippe-Vincent Foisy.
Dossier, reportage de JE sur la sextorsion, comme quoi ça touche de plus en plus de jeunes et aussi des garçons. Il y a des filles, là, je dis, on pense qu'on le sait, on en a pas mal parlé, mais on voit aussi qu'il y a des garçons là-dedans qui sont pris dans ces affaires de sextorsion-là. On va en parler avec René Morin, qui est porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance. Monsieur Morin, bonjour.
Bonjour.
C'est un gros dossier, je pense, qui va préoccuper pas mal de parents là, de regarder ça puis de se dire, OK, ça peut toucher pas mal n'importe quel enfant. Là.
Oui, tout à fait. Et vous savez, au cours d'une période de 6 mois cette année, on a constaté chez nous, à cyberaide.ca, là, la centrale canadienne de signalement des cas d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet, on a remarqué sur une période de 6 mois cette année une augmentation de 56% des signalements de sextorsion. Donc, ça rentre chez nous là, à coût de quelques centaines par mois. Là. On ouvre des dossiers pour aider les victimes, etc. Donc, c'est vraiment un problème qui est en pleine expansion, là, surtout dans le contexte de la pandémie, là où le temps d'écran des jeunes a augmenté. Ben, les cyberprédateurs en profitent.
C'est quoi
et
ça
on
se passe
sur... avec la situation?
Ça se passe sur les réseaux sociaux. C'est des gens qui se font intimider pour donner des photos. C'est du monde de l'étranger. C'est des gens d'ici, des amis. C'est quoi le portrait là, général de la situation?
C'est à peu près tout ce que vous venez de dire. Je vous dirais que, bon, nous autres, au cours de la dernière année, on a fait une étude qu'on a publiée il y a 2 semaines. On a passé en revue tout le contenu. On a obtenu les archives du plus gros forum d'aide aux victimes de sextorsion sur Internet. C'est un forum qui est sur la plateforme Reddit. On a analysé là, plus de 6500 récits, témoignages de victimes. Ce qu'on constate, là, c'est que, dans la très vaste majorité des cas, lorsqu'on parle de sextorsion financière, là, la dimension financière des choses, ce sont des garçons qui en sont victimes à 98%. Là. Mais le stratagème type, c'est que la victime se fait d'abord contacter sur Instagram. Si la cible est un garçon, ben le sextorqueur va se faire passer pour une fille, contacte le garçon sur Instagram, va ensuite déplacer la conversation sur Snapchat. Et là, la victime, le garçon, va être invité par toutes sortes de tactiques là, à s'exhiber à la caméra. Et lorsqu'il passe à l'acte, ben il se doute pas que des images de ce qui se passe sont en train d'être captées à son insu. Mmh. Et ce sont ces images-là qui vont ensuite être utilisées pour le faire chanter par toutes sortes de moyens dans le but de lui soutirer de l'argent. Et derrière ça, on sait, et plusieurs corps de police là à l'étranger l'ont constaté aussi, qu'il y a des organisations internationales, souvent basées dans des pays comme les Philippines, le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Donc, imaginez, là, vous avez des groupes criminels organisés qui, à travers les médias sociaux, vont s'en prendre à nos adolescents.
Ils sont difficiles à retrouver, là, tu sais, parce que ce que j'avais souvent en tête, c'était une gang de gars qui intimide une fille ou un chum avec une fille, puis là, il demande des photos, puis là, il échange avec ses chums, puis après ça, il a fait, je sais pas, là, tu sais, ça reste dans l'école, là, on a vraiment un réseau organisé à l'étranger, puis c'est encore plus difficile après ça de mettre la main sur ceux et celles qui sont responsables de tout ça, là.
Oui, tout à fait. Et nous, on pense que les plateformes de médias sociaux, en fait, tout ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on parle de sextorsion ou au sens plus large d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet, ça se passe où? Ça se passe sur des plateformes que les jeunes utilisent tous les jours et souvent plusieurs heures par jour. Donc, il va de soi pour nous que les gouvernements, les pouvoirs publics devraient prendre des mesures pour forcer les opérateurs de ces plateformes-là à mieux protéger leurs jeunes utilisateurs. Vous savez, si on fait une comparaison entre le monde virtuel et la réalité, là, si vous êtes un fabricant de structures de jeu, vous ne pourrez pas mettre votre structure de jeu dans un parc avant qu'elle ait subi toute une batterie de tests pour s'assurer qu'elle est sécuritaire pour les enfants. Dans le monde virtuel, ben on met aussi des produits, des services, des plateformes entre les mains des enfants sans avoir pris la peine de s'assurer si elles sont vraiment sécuritaires pour les utilisateurs. Donc, il y a des mesures comme ça qui existent dans la vraie vie qu'on devrait transposer dans le monde virtuel pour mieux protéger les enfants.
Puis pour les parents, on fait quoi? Parce que on veut les protéger, les plateformes devraient faire mieux, le gouvernement peut agir. D'ici là, parce que c'est plutôt lent, ces gouvernements-là, on fait quoi comme parents pour, je sais pas, tendre la main ou avoir cette conversation-là, pas rendre... On en parle en amont, mais si quelqu'un, un enfant est pris là-dedans, comment, qu'est-ce qu'on fait pour les aider puis les protéger?
Bon, il y a des choses qu'on veut faire en amont, puis il y a des choses qu'on doit faire après quand le mal est fait. Là. En amont, ben, j'inviterais certainement les parents qui nous écoutent en ce moment à avoir une conversation avec leurs enfants sur la sextorsion, justement pour les mettre en garde, parce que, dans le fond, les jeunes qui se font prendre au piège se font prendre au piège par des gens qu'ils ne connaissaient pas déjà dans la vraie vie. Donc, il faut avoir cette méfiance-là quand même quand on se fait aborder sur les médias sociaux par des gens qu'on ne connaît pas dans la vraie vie, qui se font passer pour n'importe qui. Faut être sur ses gardes-là. Maintenant, si le mal est fait, si votre enfant s'est fait piéger, si les images sont en circulation, la première chose à faire, c'est de couper la communication et de ne surtout pas donner à ces gens-là ce qu'ils vous demandent. Ils vont vous demander d'autres images, ils vont vous demander de l'argent, sous promesse là de ne pas mettre les images qu'ils ont en leur possession en circulation. Ben nous, nos analyses démontrent que dans 77% des cas, quand vous leur donnez ce qu'ils vous demandent, ils reviennent à la charge et vous en demandent encore plus.
C'est sûr, c'est ça. Vous avez donné de l'argent, ils vont revenir.
Exactement, exactement. Donc, couper la communication, ne surtout pas céder aux demandes des sextorqueurs. Et évidemment, faut savoir que si les images sont en circulation, il y a des choses qu'on peut faire, nous, au Centre canadien de protection de l'enfance, pour venir en aide aux jeunes qui sont pris avec ces situations-là. On a développé des technologies qui nous permettent de retrouver sur Internet des images qui ont été mises en circulation et d'en obtenir la suppression.
Rassurant, ça, quand même.
Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est certainement un bon service qu'on peut rendre aux victimes, là, et c'est de plus en plus de gens qui font appel à nous, justement, dans des situations comme ça, pour avoir notre aide pour faire retirer des images d'Internet.
Je pense que ça, c'est important que les gens se gardent ça en tête, que il y a des solutions, mais vaut mieux prévenir. C'est plus facile, en bout de ligne, d'avoir cette discussion-là qui peut être un peu étrange au début avec les enfants, mais qui est essentielle. René Morin, merci beaucoup d'avoir été là.
Au plaisir.
Au revoir.